I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, cinquième épisode de votre podcast consacré à la Formule 1, quelques heures après la conclusion du Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche du championnat 2023. La nuit a été courte pour notre camarade Stéphane Vrignot parce que les commissaires de course ont dû travailler tard dans la nuit. Et toi aussi, j'imagine ?
Bah, pas tellement tard, mais ça demande un petit peu plus de travail.
On va en parler. D'abord, on va s'intéresser à Sergio Pérez, vainqueur, seul contre tous. On reviendra sur cette histoire du Mexicain qui semble avoir gagné malgré sa propre équipe. Alors, Pérez peut-il être le poil à gratter de chez Red Bull ? On en débattra avec Stéphane. L'après-course, on le disait, a été marquée par un nouvel imbroglio provoqué par la FIA concernant la troisième place de Fernando Alonso, pénalisé, puis finalement réintégré au classement au terme d'un énième épisode pas bien glorieux pour la Fédération internationale. Et puis enfin, on s'intéressera au bilan saoudien de Ferrari. Sainz, sixième devant Leclerc. Les monoplaces de la Scuderia n'ont pas pesé sur cette course, alors qu'en coulisses, les départs se multiplient. On essaiera de comprendre et de vous expliquer ce qui se passe en ce moment à Maranello. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc aujourd'hui avec ce premier sujet, Sergio Pérez, vainqueur seul contre tous. Pérez qui a remporté ce deuxième Grand Prix de la saison devant Max Verstappen et Fernando Alonso. C'est la cinquième victoire de sa carrière. Un succès qui donne le sentiment, je le disais, d'avoir été obtenu en dépit des efforts de son équipe de faire gagner Max Verstappen. On rappelle rapidement le parcours de Sergio Pérez durant ce Grand Prix. Il s'est fait surprendre par Fernando Alonso au départ, alors que le Mexicain partait de la pole position. Et puis le pilote Red Bull a repris la première place dans le cinquième tour. Il ne sera finalement plus inquiété durant ce Grand Prix, à part par un message de sa propre équipe, lui demandant de ralentir. Alors qu'on voyait bien que Max Verstappen, lui qui était remonté jusqu'à la deuxième place, ne ralentissait pas du tout. Il n'a donc refusé de ralentir et il s'impose avec ce sentiment un petit peu étrange quand même d'être un vainqueur dérangeant dans sa propre équipe. Stéphane, toi tu as écrit un article que j'ai trouvé très très bon sur eurosport.fr sur cette guerre finalement non déclarée chez Red Bull mais qui a bel et bien eu lieu pendant ce Grand Prix et qui relate cette impression un petit peu étrange.
Alors, j'emploierai pas les grands mots, on parlera pas de trahison, mais quand ton ingénieur de course t'appelle pour te dire qu'il faut ralentir et que l'équipe n'assume pas de passer une consigne claire
et de figer les positions,
encore moins que c'est le chef stratégiste qui appelle en disant « Allô, c'est James », par exemple, comme il faisait chez Mercedes, c'est qu'il y a un souci quand même, il y a une confiance qui est cassée. Alors d'ailleurs, dans le clan Red Bull, on l'a vu ce week-end, Michel Fattori, où le patron de Franz Tost a dit carrément « Moi, j'ai absolument pas confiance dans les ingénieurs. » Non, c'est hallucinant. Et là, je crois que Pérez aussi se pose beaucoup de questions sur son propre ingénieur parce qu'il l'appelle au 42e tour pour lui dire « Tu ne pourrais pas remonter tes chronos de 4 dixièmes, là, tranquille, gentiment. »
Il était en 32,6 et on lui demandait de tourner en 33 officiellement pour économiser un petit peu les
même
les
pas
les
officiellement
pneus.
Parce qu'il l'a même pas justifié. Oui. Et Pérez a tout de suite rétorqué mais il tourne en combien Max, etc. Et il a dit juste après en fait moi j'attaque c'était une fin de non recevoir. On l'avait rarement entendu comme ça, c'est-à-dire désobéir. D'habitude il ronchonne un petit peu, il retourne à la radio, il y a des négociations et puis je crois que c'est deux tours après la surenchère a commencé au niveau chrono et l'équipe l'appelle pour dire vous êtes libre de vous bagarrer. Mais disons que en 2002, on s'en souvient, Ferrari avait passé une consigne à Barrichello de laisser gagner Schumacher parce que c'était la sixième course. Ferrari avait la meilleure voiture du plateau, mais tout le monde était en panique. Michael Schumacher n'allait pas gagner. On avait trouvé que c'était une outrance, hein, y a pas d'autre mot. Bon, au bout de la sixième course, mais là, à la deuxième course, Red Bull a dit, écoute, range-toi, c'est Max qui doit gagner. C'était un plan à un arrêt. Et effectivement, comme j'ai écrit, à un vainqueur supposé, souhaité, c'était Max Verstappen, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement, merci Checo.
Alors, effectivement, Sergio Pérez a désobéi. Tu écris, toi, justement, dans cet article, que Pérez était passé de numéro 2 à Factor X. Tu penses vraiment, toi, que Sergio Pérez peut être le poil à gratter, comme on le disait en introduction, de chez Red Bull?
Oui, là, maintenant, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'il peut nous faire dans ce type de situation, et il est devenu un petit peu un électron libre. Et Verstappen le sentait un peu. Il a dit avant le départ de la course, ça serait comme surréaliste si je gagnais, mais il a quand même essayé.
C'était une façon surtout de mettre la pression,
voilà,
à Checo.
Il avait une aide de la part de son équipe, mais Checo maintenant sera capable de refaire ce genre de choses, et c'est ce qu'on attend. Alors, c'est là, finalement, où Verstappen avait senti que ça pouvait mal tourner et où il s'est accroché au meilleur tour en course. Mais en fait, si tu regardes bien le déroulé des meilleurs chronos, on a pensé à un moment que Verstappen voulait revenir effectivement sur Checo Pérez parce que ce n'était pas possible de le faire de façon concertée avec la subordination
du Mexicain,
voilà, organisée par Red Bull. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est Verstappen a essayé carrément de pousser Pérez à la faute. Je m'explique, à l'arrivée, Verstappen dit « Dans la voiture, j'ai fait mes calculs, je n'aurais pas été capable de faire la jonction avec 10 tours restants. » Ça veut dire clairement que s'il n'y avait pas de consigne, il n'était pas capable de gagner et il a dit « Bon, bah, à la fin, j'ai compris qu'il valait mieux se satisfaire, se contenter d'une deuxième place. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit jeu de la bataille des chronos, c'était assez symbolique, c'était pour un point, mais c'était pour essayer de pousser Pérez à la faute dans ses derniers retranchements et à taper. Et je pense qu'il voulait essayer de gagner par KO de cette façon-là. Je ne me l'explique pas autrement.
Alors, c'est d'autant plus étonnant qu'on rappelle que Max Verstappen était encore en proie à des problèmes de transmission. C'est ce qui lui avait d'ailleurs valu de partir 15e sur la grille. Hein. C'est la transmission qui avait trahi la voiture en Q2 et qui l'avait empêché de faire un chrono en Q2. C'est pour ça que Verstappen est parti très très loin sur la grille de départ. Là, il se plaignait de nouveau d'un bruit très très étrange au niveau de la transmission.
37e tour.
Voilà, et on peut vous assurer que quand un pilote de ce calibre vous dit il y a quelque chose qui ne va pas sur la voiture, même si les capteurs, même si les datas ne le repèrent pas, vous êtes sûr à 100% que il y a vraiment quelque chose. Et là, malgré ce problème-là, qui pouvait éventuellement pousser à l'abandon, eh ben, on a quand même engagé ce bras de fer entre les deux pilotes. Et pendant ce temps-là, on a entendu aussi Sergio Pérez qui disait « Oh là là, j'ai la pédale de frein qui se rallonge un petit peu ». Et non, on n'a pas eu finalement le pouvoir d'arrêter les deux pilotes chez Red Bull, c'est étonnant.
Non, mais retour quand même, hein, dans les grandes lignes du Max Verstappen Racing.
Ah, ça c'est sûr.
C'est le pilote prioritaire. Et là, c'est quand même gonflé parce qu'au 37e tour, il annonce qu'il a un problème de vibration sur l'arbre de transmission. Donc, inquiétude tout de suite. Il est à 4 secondes 4, je crois, et il finit à 5 secondes 3. Donc, Pérez a quand même mis le paquet sur la fin. Mais en fait, il a ces problèmes-là. Alors, je ne pense pas que Pérez était au courant, mais on a le toupet de demander à Pérez. Mais en fait, voilà, c'est ça. Verstappen est en difficulté. Il ralentit, mais on aimerait que tu ralentisses encore plus. C'est à peu près ça. C'est too much.
C'est pour ça que là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait de ton avis sur le fait qu'il peut être l'électron libre dans cette équipe. Je pense qu'au contraire, ils vont le recadrer, Sergio Pérez. Là, on voit bien que la priorité absolue, c'est quand même que Max Verstappen soit champion. D'ailleurs, Helmut Marko, il le dit. Ah ben non, mais Max, il est incontrôlable. Hein. On lui a dit de ralentir et d'assurer.
Il est comme ça.
Et
c'est
il a quand même attaqué. Oui. Oh, le vilain.
C'est ça.
N'y peut rien. Ça prouve qu'il est chez lui. Il est chez lui. L'année dernière, Christian Horner avait essayé de recadrer un petit peu les choses. Mais quand vous avez un pilote du calibre de Max Verstappen, de toute façon, c'est lui qui a les clés du camion.
Non, puis il le dit en conférence de presse, il a dit « Je ne suis pas là pour être deuxième ».
Oui.
Alors, le message est encore parvenu jusqu'à la direction.
En tournant la tête et en regardant Pérez. Honnêtement, je ne vois pas du tout la marge de manœuvre de Sergio Pérez. Et je vais te dire une chose. Quelque part, j'ai de plus en plus de respect pour Checo Pérez parce que faire ce qu'il fait en ayant ce sentiment d'être cerné au sein même de sa propre équipe et de finalement devoir se méfier des messages même de son ingénieur, ah bah alors là, franchement, moi, il me bluffe. et réussir à garder sa concentration et à échanger, presque à argumenter avec son ingénieur, accessoirement, c'est quand même un des circuits où ça va le plus vite de la saison, bah, ouais. Je suis bluffé. Ouais, je suis bluffé de la concentration, de la force mentale. On n'a fait que deux grands prix hein, sur la saison. Ça va être très très long pour Checo Pérez. Quelque part, j'aimerais bien, ça serait plutôt drôle qu'il arrive à donner la riposte et à venir mettre un peu le bazar dans cette équipe. Sauf qu'à un moment, on ne va peut-être pas totalement écouter ce qu'il veut et on pourrait éventuellement ne pas régler exactement la voiture comme il aurait besoin s'il devient trop dangereux pour Verstappen.
Bon, ce que je retiens, c'est vraiment le cran. En 2021 ou 2022, il aura explosé tout simplement sous la pression.
Ouais.
Libre 1, Libre 2, Libre 3, Q1, Verstappen met une mine à tout le monde.
Y compris à Pérez.
Tout à fait. Pérez qui a grosso modo à 4 dixièmes autour. Donc là, il y a deux classes d'écart. Et puis d'un seul coup, on lui dit, c'est toi maintenant qui est le premier pilote, qui doit faire la pole position. Et chez Red Bull, on l'a dit, de toute façon, nous, on a conseillé que c'était une évidence. Grosse pression quand même. Et puis après, au départ, effectivement, il se loupe. Donc, il se fait piéger par Alonso. Mais au restart, c'est parfaitement bien géré.
Oui,
là, il s'envole.
Il a bien renvoyé.
Tout à fait. Alors qu'il avait la pression quand même.
Oui,
parce
que
pendant la neutralisation, il y avait une Aston Martin devant, une Aston Martin derrière. Il fallait gérer ces histoires d'écart, de rythme, etc. et de restart qu'il n'avait pas toujours bien géré par le passé.
Non.
Et là, il a tout bien fait. Et puis, surtout, c'est quand il faut déclarer la guerre à Verstappen à coup de chrono, il le fait. Là, franchement, il m'a épaté. Je pense que c'est son plus beau Grand Prix. En Formule 1, son Grand Prix le plus complet, là où on l'attendait. Il y a eu quelques circonstances, mais il a fait le job et je pense que Verstappen a été surpris. Alors maintenant, c'est une circonstance. Verstappen est clairement le plus rapide, mais je pense que plusieurs fois dans la saison, on va peut-être le revoir dans une situation comme ça où il contestera même une stratégie, un plan qui ne voudra pas être trop au service de Verstappen. Envoyer un éclaireur pour tester un certain type de gomme pour voir un petit peu si ça va bien. Ils l'ont fait, mais tellement de fois. Et là, on verra peut-être des choses un petit peu différentes. Et on retourne peut-être chez Red Bull aux années Vettel, Weber ou Ricciardo, Verstappen, où là, ils étaient un petit peu chien et chat. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'il nous fallait parce que derrière, c'est la débandade.
Eh ben, j'aimerais bien que ça soit comme ça, mais honnêtement, j'y crois pas. L'avenir nous le dira tout au long de cette saison 2023. Reste que c'était effectivement un des grands prix les plus aboutis de Sergio Pérez, qui pointe donc deuxième au classement des pilotes avec 43 points, à un point de Max Verstappen. Et c'est ce point du meilleur tour obtenu par le Néerlandais qui fait la différence pour le moment à la faveur du double champion du monde face à son coéquipier. Ça va mettre du piment, notamment pour le prochain Grand Prix du côté de Melbourne. Alors, on va parler maintenant de la pénalité de Fernando Alonso et surtout du patinage pas très artistique de la FIA pendant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, et patinage qui s'est aussi poursuivi pendant une bonne partie de la soirée et des heures qui ont suivi l'arrivée de cette deuxième épreuve de la saison. On rappelle les faits, Fernando Alonso qui vient se placer mal sur la grille de départ, il dépasse un tout petit peu de son emplacement sur la deuxième place de la grille de départ, un tout petit peu sur la gauche par rapport à où il devait être. Il fait la même erreur en fait que Esteban Ocon lors du Grand Prix de Bahreïn. La sanction ensuite, elle est logique, c'est 5 secondes de pénalité qui doivent être appliquées au moment du passage au stand. Autrement dit, on ne touche pas la voiture pendant 5 secondes avant de faire le changement de pneumatique. Et chez Alpine, on avait touché à la voiture au bout de 4 secondes 6, me semble-t-il, et finalement, ouais, c'est comme ça qu'on avait repris une pénalité de 10 secondes. Et là, alors, on n'a pas exactement touché la voiture de Fernando Alonso, mais le préposé au cric, celui qui doit venir soulever l'arrière de la voiture, eh bien, vient en fait engager le cric sur le support à l'arrière de la voiture. Alors il ne touche pas la voiture lui-même, il vient juste mettre le cric et on attend 5 secondes, on attend même un petit peu plus avant effectivement de faire le changement de pneumatique. La voiture repart et là il va falloir très 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 longtemps avant que la FIA commence à parler, que la note soit transmise donc au commissaire sportif. Et qu'on nous parle finalement après l'arrivée, après la cérémonie du podium, d'une pénalité de 10 secondes, faisant rétrograder Fernando Alonso de la 3e place du classement à la 4e position, et donc qui devait donner le 3e rang à George Russell. Toi, tu couvrais pour Eurosport justement ce Grand Prix, Stéphane. Déjà, première question, comment on fait quand on attend comme ça, on se tourne les pouces, on attend que la FIA se réveille?
Alors, j'étais en train de me demander en t'écoutant pourquoi est-ce que la FIA avait mis tant de temps.
Oui,
bah, c'est effectivement, un peu la question après, que beaucoup de gens se sont posés. À l'arrivée, on se dit mais pourquoi tant de temps? Mais en fait, je ne sais pas, hein, mais c'est peut-être pas la FIA en elle-même qui a constaté l'infraction parce que c'est facile à faire. 18e tour, il s'arrête, on le voit et on le... déclenche la note.
Et on le voit, on l'a
et
vu.
Et ça arrive beaucoup plus tard. Et dans cette histoire, tu as un peu l'impression qu'il y a un espion d'une autre équipe qui regarde et qui là, dit là, il y a une malfaçon, il faut regarder de plus près, faut enquêter, parce que c'est aussi comme ça que ça marche.
Hein. Ah, c'est sûr.
Clairement,
c'est sûr.
Alors je ne sais pas si c'est venu directement ou indirectement, mais tu ne comprends pas, effectivement, avec la cellule qui a été mise en place après le fiasco d'Abu Dhabi 2021, le respect des procédures auprès de la direction de course, regarder les vidéos pour, avec une assistance à Genève pour
voilà. Je t'interromps juste
constatuer
deux secondes,
là-dessus.
Stéphane, bon. Après les histoires de Abu Dhabi 2021, il y a une cellule qui a donc été mise en place par le nouveau président de la Fédération internationale de l'automobile, Mohamed Ben Sulayem. Cellule qui reste en fait à Genève, qui reçoit les images, qui analyse et qui aide. En fait, elle ne prend pas de décision. Hein. Elle aide les commissaires sportifs sur place à prendre la décision. Mais là, le délai, il était incroyable.
Je pensais quoi, des 35 tours hein.
Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, c'est fou le temps qu'il a fallu. Alors, je ne sais pas comment ils envoient les images jusqu'à Genève, si c'est par pigeon voyageur, peut-être, ou si c'est par modem, mais sinon, moi, ils peuvent venir chez moi, j'ai la fibre, ça ira plus vite, hein, les amis. Voilà, c'était fou. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que déjà, ça a pris un temps incroyable à la FIA pour prendre sa décision, mais alors... ça a été un revers de coup droit, enfin je sais pas comment on dit en tennis, plus fort que ceux de Nadal, parce qu'alors chez Aston Martin on a répondu quasiment du tac au tac, on avait déjà tout prévu avec une réclamation qui portait finalement sur deux points. D'abord sur le fond, on a envoyé à la FIA 7 extraits vidéo d'équipes qui étaient soit directement rentrés en contact, en tout cas rentrés en contact avec la voiture pendant cette pénalité de 5 secondes durant laquelle on ne doit pas travailler sur la voiture. Et ces 7 extraits concernent des équipes qui n'ont pas été pénalisées par cette action. Donc ils disent, bah, si là on a 7 exemples où il n'y a pas eu de pénalité, on ne voit pas pourquoi nous, on serait pénalisés. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, il avait été précisé lors du briefing des équipes qu'il ne devait y avoir aucun contact avec les voitures lors de ces pénalités. Et le règlement sportif, pour ceux qui regardent la pastille vidéo, vous allez voir, hein, l'article 54.4 alinéa C du règlement sportif de la Formule 1, précise, lorsqu'une voiture est immobilisée dans la voie des stands à la suite d'une pénalité infligée, elle ne peut pas être réparée, alors on ne peut pas travailler sur la voiture aussi, avant d'être restée à l'arrêt pendant la durée de la pénalité, autrement dit pendant ces 5 secondes. Ça c'est le règlement, et il n'y a pas marqué là dans ce règlement, il n'y a pas écrit noir sur blanc qu'aucun élément ne doit venir en contact avec la voiture. On parle de travailler sur la voiture. Or, est-ce que mettre le cric, c'est travailler sur la voiture? Je suis un petit peu entre les deux, Stéphane. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que, bah, une fois que tu as enclenché le cric à l'endroit où il doit être enclenché, bah, après, tu n'as plus qu'à faire ça et la voiture, elle se lève. C'est un peu comme celui qui doit déverrouiller la roue. S'il met son pistolet pneumatique autour de l'écrou, effectivement, il ne travaille pas. Mais la seule chose qu'il a à faire après, c'est appuyer. Ouais. Et puis, en un dixième de seconde, l'écrou. Donc là, il y a une zone grise dans le règlement. Zone grise dans laquelle sont plongés, évidemment, tous les juristes de chez Aston Martin en disant « Votre règle, elle a rien à voir. » et c'est ce qu'ils ont envoyé. Du coup, il y a eu un communiqué des commissaires de la FIA qui ont bien compris que bah, là, ils avaient tout faux et qui dit « L'équipe a fait valoir que le prétendu accord entre la FIA et les équipes sur le fait de toucher la voiture de quelque manière que ce soit, y compris avec un cric, constituerait un travail sur la voiture, était incorrect et que par conséquent, la base de la décision des commissaires était erronée. On s'est déjugé. Ça l'affiche mal quand même.
Et Aston Martin avait tous ses arguments préparés. Je crois qu'ils ont envoyé une demande de révision dans le dernier tour de la course. Donc ça, c'est vraiment le travail du directeur sportif. Dans une équipe, c'est lui qui connaît sur le bout des doigts le règlement et qui archive effectivement tous les types d'incidents possibles et imaginables pour faire des rapprochements avec ce qui a été fait par le passé, parce que les gens ont aussi appris une chose, c'est que la FIA a rendu trop de jugements incohérents, inconstants par rapport à des situations identiques par le passé, et ils en jouent maintenant. Et, oui. Et là, ils ont taclé la FIA dans les grandes largeurs. Je te dirais que... On n'avance pas à la FIA, on en est toujours au même point. En janvier dernier, il y a toute la cellule en fait, F1 qui a été refaite par la FIA. Il y a un nouveau directeur de la monoplace qui est arrivé, c'est Nicolas Tombassis, donc qui est passé directeur de la commission monoplace. Il était auparavant directeur technique, donc c'est lui qui essaie de définir un petit peu ce qui est bon pour la Formule 1 en termes d'aéro, etc. Le nouveau règlement, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. C'est des gens qui sont extrêmement expérimentés. Hein. C'est un designer historique de Ferrari.
Voilà. Il a fait beaucoup
d'études. Même chose pour Tim Goss, qui est passé donc directeur technique. Et puis, là, c'est là où tu vois l'incohérence totale.
Il y avait Rose Brown auparavant dans ce
rôle. Tout à fait. Alors, Rose Brown, c'était auprès du promoteur du championnat de Formula 1.
Oui, voilà. Raison de le préciser. Pardon.
Et surtout, il y avait François Sicard qui a pris ses fonctions, je crois, l'an dernier, c'était au mois de juin, comme directeur sportif de la F1 auprès de la FIA. Et lui, il a dit une chose très, très simple. Bon, ben maintenant, en fait, par rapport aux polémiques qu'il y a eu sur l'inconstance des jugements, je vais regarder, éplucher tout le règlement. On va discuter avec les équipes. On va simplifier ça pour ne plus avoir... c'est quoi que régulier. Bon, c'était à peu près en substance ce qu'il disait. On se souvient hein, des circonstances par lesquelles Verstappen a été champion du monde à Suzuka l'an dernier. C'était une question d'application du règlement sur une règle qui était mal écrite, incomprise de tout le monde. C'était fantastique. Et là, en fait, François Sicard, qui a pris ses fonctions de directeur sportif l'année dernière pour s'occuper de tout ça, eh bien, il s'est fait déposer par Steve Nielsen, qui est arrivé, qui était à Formula One, directeur sportif aussi, et qui avait envie de passer à la FIA pour s'occuper un petit peu plus des règlements, parce qu'il y a un peu une guerre, c'est tendu, qui fait quoi, comment, qui influence, etc. Et lui, il a débarqué, et il a pris le poste de directeur sportif, donc on met une pièce dans la machine, on repart pour un tour, et là, quand même, Steve Nielsen, hein, c'est un CV béton, Lotus, Tyrell, Honda, Renault, etc., c'est du lourd, Williams, il connaît l'intimité des règlements, sauf que là, sa responsabilité, c'est le règlement sportif, justement, et puis c'est s'occuper de ce centre opérationnel à distance à Genève qui n'a pas donné, fourni les bons éléments, ou en tous les cas, qui a étudié quelque chose qui n'avait pas lieu d'être parce qu'il y avait déjà un litige sur ce fameux règlement. Ça veut dire que on refait sans arrêt les organigrammes, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et puis on en reste toujours à ces histoires d'interprétation du règlement. La FIA s'est prise les pieds dans le tapis une fois de plus.
Ouais. Alors, c'est en partie l'échec, effectivement, de cette structure à distance qui est censée aider à la décision, déjà par un délai absolument incroyable. Et puis en face, parce qu'on a vraiment le sentiment que dans les grosses équipes, il y a des cellules avec des juristes qui décortiquent chaque image des Grands Prix et qui remarquent des choses qui échappent au commun des mortels. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, en regardant ce Grand Prix, se sont dit « Oh là là, c'est quand même pas le Grand Prix de l'année, même si Max Verstappen est remonté de la 15e à la 2e place. » Mais eux ne regardent finalement pas du tout le Grand Prix de la même manière que les fans de Formule 1. Et ils archivent « Tiens, telle équipe a fait ceci, a fait cela. » Sauvegarde-moi cette image, crée un dossier, un tel, un tel, un tel. Et puis, le jour où on a une pénalité, si on veut la contester, on n'a plus qu'à ressortir le dossier, l'envoyer à la FIA, parce que je pense qu'ils ont la fibre du côté de chez Aston Martin, et ça doit mieux marcher que du côté de Genève à la FIA. Et c'est là, on a vraiment le sentiment que le pouvoir, la puissance des équipes, lamine totalement tout ce que peut essayer de mettre en place la FIA. Et là, c'est quand même basique. Une règle, elle ne vaut que si elle est écrite, validée dans le règlement sportif. On ne peut pas faire un petit truc comme ça au briefing des équipes en disant « Bon, attention, hein, y a rien qui touche les voitures, Et puis tout le monde s'en va comme ça. Ça, c'est bon pour les courses de karting avec 3 kilos de merguez à gagner si vous êtes sur le podium. Mais on parle de Formule 1, on parle ouais. du pinacle du sport auto. Et là, je trouve qu'il y a une différence entre les deux niveaux de professionnalisme, allons-y, qui est assez effarante. Et je pensais qu'on avait laissé tout ça derrière nous quand même. Et ben non, il y a encore du travail à faire.
Puis ce qui est curieux en plus, c'est que dans l'esprit de tout le monde, c'était clair, on ne touche pas la voiture.
Oui, oui.
Point barre, c'est tout.
Mais je t'avoue que quand j'ai vu le Jack derrière la voiture, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait lui ?
Parce qu'il ne travaille pas sur la voiture, mais c'est une opération qui fait partie en fait d'un pit stop classique qui ne devait pas démarrer avant les 5 secondes réglementaires
mais imposées. Dans l'esprit, je comprends que ça soit pénalisé parce que bien placer le cric, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand vous devez essayer de faire l'arrêt en moins de 3 secondes que si vous savez que de toute façon la voiture elle va rester là pendant 5 secondes à rien faire. Tu peux arriver tranquillement, mettre ton cric, même moi je peux y aller. Donc je comprends bien que dans l'esprit, le fait de venir placer le cric, c'est pas du tout le respect de la règle. Sauf que il faut l'écrire, il faut absolument que ce soit écrit. On verra si d'ici Melbourne il y aura une modification du règlement, mais encore une fois, honnêtement, on voit qu'il y a quand même, on travaille pas sur la même échelle.
Et ce délai en plus a un petit peu irrité Aston Martin parce qu'ils n'ont pas pu gérer cette pénalité. Ils auraient même dû se douter qu'ils prendraient 10 secondes parce qu'à la fin, on appelle Alonso en disant « Attention, garde bien tes 10 secondes. »
Chez Mercedes, il lui parlait 5 secondes.
Chez Mercedes, on est au courant, on demande à Russell, on l'informe. Il a essayé de tenir ses 5 secondes et finalement, c'était 10 secondes. Et c'est ce qui est un petit peu agacé parce qu'il l'aurait su beaucoup plus tôt qu'il prenait ses 10 secondes. Eh bien, Alonso, il prenait 5 secondes de plus d'avance sur Russell et puis il gardait sa troisième place. Et puis tout allait bien dans le meilleur des mondes, on va dire, entre guillemets. Mais alors, effectivement, Gilles, tu me dis, dans les équipes, il y a des juristes, il y a le directeur sportif qui est là pour ça. Et c'est pour ça que Mohamed Ben Sulayem a appelé aussi peut-être Steve Nielsen dans la cellule pour en faire son directeur sportif parce qu'avec son expérience, il regarde de l'autre côté, il sait comment contourner tout le règlement. Et là, maintenant, on lui dit stop, il faut arrêter ça. Et on va, ces ambiguïtés, etc., ce fait de contourner le règlement. Mais je crois qu'il va avoir beaucoup de travail parce qu'il y a certainement des articles partout dans le règlement qui sont un petit peu ambigués, qu'on va ressortir comme ça. Et on se dit, mais c'est pas possible, il n'avait pas regardé ça.
Bon. Mais au-delà de ça, on va s'arrêter là-dessus. La problématique que je vois, moi, maintenant, c'est que même pour faire respecter les règles écrites, Si toutes les grosses équipes ont compilé finalement des infractions faites dans le passé qui n'ont pas été sanctionnées et que ça suffit à faire tomber une sanction, à ce moment-là, il n'y a plus rien à arbitrer parce que ça veut dire que les erreurs du passé vont alimenter finalement l'impossibilité de sanctionner des erreurs du futur. Ça va être très très compliqué. Là, il y a un vrai chantier pour la FIA. On va évoquer un troisième sujet dans les fous du volant aujourd'hui. Stéphane, si tu le veux bien, on va parler de Ferrari entre Exode et Anonymat. Ce Grand Prix d'Arabie Saoudite qui s'est conclu dans la morosité pour les Ferrari avec une 6e place pour Carlos Sainz et une 7e pour Charles Leclerc qui était lui parti 12e sur la grille après une pénalité. Les hommes de Fred Vasseur qui n'ont pas eu beaucoup de réussite, il faut bien le reconnaître, avec l'intervention de la voiture de sécurité. Au final, on a quand même le sentiment que la voiture ne leur aurait pas permis de faire beaucoup mieux au classement. La Scuderia, après ses deux premières épreuves, ne compte que 26 points au classement des constructeurs, comparé aux 87 de Red Bull. Ferrari est quatrième au classement des constructeurs. Et Stéphane, c'est toi qui m'a montré ce chiffre qui est éloquent. Ce sont les 6 malheureux points de Charles Leclerc dans l'histoire du Monégasque. C'est son plus mauvais départ en Formule 1, c'est ça ?
Chez Ferrari, spécifiquement, il est 8e du championnat avec 6 points. Et il avait fait beaucoup mieux depuis son arrivée chez Ferrari en 2019. On le voit, 26 points, l'année suivante 18. 2021, 20 points. Ça tourne autour d'une vingtaine de points. De toute façon, en deux grands prix, il rentre une vingtaine de points. Et l'an dernier, 45, carrément. Alors là, le contraste est saisissant. On parle d'un vice-champion du monde qui a l'ambition de franchir le dernier palier. Et là, on n'y est pas du tout.
Donc, on parle d'une équipe italienne.
Tout à fait. Et mais Là, il y a, bon, c'est l'alerte, c'est la cote d'alerte, c'est certain. Alors, on va parvenir là-dessus. C'est globalement, il y a une grosse déception parce que les caractéristiques du circuit étaient différentes. On s'attendait à une moindre dégradation et on ne s'attendait pas non plus à être largué à ce point-là en Vmax, presque 10 km/h, 8, je crois, par rapport à la Red Bull. Bon, alors la Red Bull a impressionné tout le monde de toute façon. Donc, je ne sais pas si c'est. Mais Ferrari termine avec deux voitures derrière Mercedes, Russell et Hamilton. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus inquiétant quand même, parce qu'on les croyait vraiment inaccessibles. Enfin, dans une classe à part, à la deuxième place, Trollen Red Bull, mais hors de portée de Mercedes, peut-être un petit peu à la portée d'Alonso, mais ils vont se battre avec Alonso jusqu'à la fin de la saison. Mais ça, c'est, je dirais, peut-être la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on voit, mais c'est ce qui se passe tout en dessous, en coulisses, qui est peut-être le plus inquiétant.
Exactement. On ne va pas s'attarder trop, finalement, hein, sur l'aspect sportif. Ça, il y a beaucoup de sites qui le font. Et si vous êtes amateur de Formule 1, vous regardez les classements, vous voyez bien que ça ne va pas très, très bien en ce moment. Les chronos sont là pour en témoigner. Ce dont on voulait parler avec vous, c'est ce qui se passe en ce moment en interne, dans les coulisses, à la Scuderia Ferrari, parce que vous entendez parler de pas mal de départs depuis l'arrivée de Fred Vasseur au mois de janvier. Le départ dont vous avez le plus entendu parler ces derniers jours, c'est celui de David Sanchez, qui était directeur de la conception, qui a pris la direction de chez McLaren. Alors, on va y revenir.
Oui.
On va y revenir. Je voudrais déjà qu'on parle, Stéphane, du départ de quelqu'un que les amateurs de Formule 1 peut-être ne connaissent pas, n'ont peut-être jamais vu son visage. Il s'appelle Gino Rossato. Et alors, il a des fonctions un petit peu particulières. C'est quoi sa fonction officielle? C'était quoi? Parce qu'il est parti de chez Ferrari.
Les relations externes.
Voilà. Bon, en gros, il s'occupe de faire des choses, voilà.
Je dirais
dans l'ombre.
Un petit peu l'intrigant.
Voilà.
En fait, il s'occupait chez Ferrari du protocole, de la réception des invités. D'ailleurs, sa grande passion, c'est de prendre des photos avec les stars. Tu te demandes si lui-même ne se comporte pas comme un VIP à l'intérieur même
de la
l'équipe. Et tu te demandes quel est son impact. Parce que depuis plusieurs années maintenant, les écuries ont un contingent qui est limité sur les circuits. Et tu te dis, il vaut mieux quand même mettre à la place un technicien que quelqu'un qui fait du lien, du relationnel, de cette façon-là.
Bon. Ça c'est l'éternel débat entre les journalistes et les communicants.
Il est arrivé de façon un petit peu détournée. Il travaillait dans un hôtel à Montréal, où logeait Ferrari. Il a fallu aider quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un du management de l'équipe. Et puis, pour le remercier, on lui a dit, bah, tiens, tu viens, tu as un pass VIP au prochain Grand Prix. Il s'en est très, très bien sorti. Il a fait du relationnel tout de suite. Il est fait pour ça. Oui. Il a la fibre, clairement.
Il faut quand même expliquer qu'il est italo-québécois. Donc, ça veut dire qu'il parle italien, français, anglais parfaitement.
Oui.
Et que dans la Scuderia, à cette époque-là, on parle, en fait, si vous voulez, des années juste avant l'arrivée de Jean Todt. Et Jean Todt, quand il est arrivé en 93, il l'a fait rentrer officiellement dans l'équipe. On vous parle d'un homme qui est dans la Scuderia depuis 30 ans.
Oui, tout à fait. Et alors, avec une parenthèse chez Lotus,
oui.
Et je t'expliquerai pourquoi, d'ailleurs. Mais en fait, oui, il me rappelle un petit peu le genre de promotion qu'avait eu Miodrag Couture au sein de la Scuderia, enfin, dans l'environnement de Jean Todt, qui l'avait pris, qui l'a fait monter les échelons logistiques, qui s'occupait de beaucoup de choses. Et le parcours de Gino Rossato me fait un petit peu penser à ça. Miodrag Couture, c'est lui qui gardait la 405 qui était volée au Dakar.
Voilà. Oh là là, on va sortir des dossiers.
C'était un homme de confiance, si tu veux, qui est resté. Et Gino Rossato, lui, il a dit tout de suite, du moment que j'avais une chemise rouge, j'étais heureux. Et c'est vrai qu'il respirait ça, sauf que c'est lui quand même qui organisait un petit peu des fuites ces derniers temps. Alors, il était, c'est un petit peu bizarre, il était, je dirais, le copain, il était quelque part un petit peu protégé pendant plusieurs années par Montezemolo, qui l'appréciait beaucoup parce qu'il était responsable du protocole, etc.
C'était un facilitateur, en fait.
Et puis, surtout, c'était le copain de Kimi Raikkonen. Alors, Kimi Raikkonen quitte la Scuderia en 2009. Qu'est-ce qui se passe? Gino Rossato s'en va aussi.
D'accord.
2014, Kimi revient. Ah ben, qu'est-ce qui se passe?
Gino revient, d'accord.
Tout à fait. Donc, okay. Et tu sentais que c'est un
chez
petit
Lotus,
peu le surveillant général.
Il n'y avait pas Kimi Raikkonen
Alors, dans l'équipe de Formule 1, mais qui n'était pas connecté au constructeur.
D'accord, ok.
Tout à fait. Mais c'est pour dire, en fait, qu'il était là un petit peu. Tu as l'impression qu'il était là un petit peu aussi pour surveiller. mais tu ne comprenais pas bien son rôle, relations externes, un petit peu un rôle politique
ça
aussi.
En fait, ça s'appelle un facilitateur. Ouais. C'est quelqu'un qui essaie de mettre en relation, de faire de l'entre-gens.
Il aurait été remercié surtout par Benedetto Vigna, qui a repris vraiment l'écurie en main et qui est convenu avec John Elkann de prendre Fred Arivasser. Mais depuis qu'il est parti... Il balance quelques infos en sous-main à la presse qui se déchaîne, et qui fait régner un climat délétère.
Ça veut dire qu'en gros, tu es en train de nous expliquer que tout ce qu'on voit du côté de la presse italienne, ça pourrait venir de personnes comme ça qui se sont fait débarquer et qui se lâchent un petit peu.
À la Scuderia, on a dit, de toute façon, il y a une ou deux personnes qui sont ciblées et il fait partie de ces deux personnes-là. Donc, une chance sur deux. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce qui s'est passé de fondamental, c'est qu'il c'est que quand Mattia Binotto est parti, c'est un Français qui devait le remplacer, on en parlera. Donc c'était soit Laurent Méquès, son adjoint et team principal,
ouais.
Voilà, c'est ça, remplaçant sur les Grands Prix, ou Fred Aivasser. Ça voulait dire que ça a heurté le clan de Mattia Binotto et tous ceux qui sont attachés à une culture italienne dans cette équipe. Et c'est là que ça a commencé à réagir. Et la presse l'a pas très très bien pris. C'est vrai que Fred Vasseur est arrivé. La presse s'attendait à quelqu'un d'autre, quelqu'un du Serail. Et là, elle se déchaîne parce que les résultats sont mauvais sur la piste, mais c'est un petit peu déloyal parce que Fred Vasseur a dit « Bon, on n'a pas besoin de ça, c'est clair, ça met la pression sur tout le monde, c'est assez destructeur. » Et on en revient, je te disais, à la fin des années 80, début des années 90, en préparant cette émission, où régnait cette instabilité aussi comparable.
Exactement. Alors,
Rosato partirait peut-être chez Aston Martin. On verra bien, mais si on le revoit là-bas, on va commencer à sourire.
Il passerait du rouge au vert, en gros. Un petit mot, tu as parlé de Laurent Méquès, qui pouvait prétendre finalement à prendre la place de Mattia Binotto lorsque l'Italien a été débarqué. On a entendu dire que lui voudrait partir. Est-ce que c'est des choses qui ont été rapportées justement et qui ont été vérifiées? Ou est-ce que ça va pouvoir finalement le faire avec Fred Vasseur, parce qu'il y a quand même tout intérêt à ce que les deux Français arrivent à travailler ensemble. Je parle pour la Scuderia. Hein.
Laurent Méquès était tout à fait taillé pour être le nouveau patron de la Scuderia Ferrari. Il a un passé d'ingénieur de piste chez Toro Rosso. Il est passé par la FIA. Il était délégué à la sécurité sur les Grands Prix. Il était l'adjoint de Charlie Whiting. Il est revenu chez Ferrari avec un poste assez élargi. Et ce qui est un petit peu bizarre, effectivement, c'est que son poste a été redimensionné, on va dire, depuis l'arrivée de Fred Vasseur. Il a moins les coups des franches. Fred Vasseur dit qu'il veut en faire un pilier de l'équipe, mais je ne sais pas s'il y trouve son compte. Alors, dans cette histoire, il y a quelque chose qui compte quand même. Ils se connaissent depuis 25 ans et ils sortent de la même école. L'Estaca, donc, ouais. Voilà, l'école qui prépare les ingénieurs à l'aéronautique et à la construction automobile, près de Paris, tout près de Paris, à Levallois-Perret. Ça crée des liens. C'est une forme de solidarité et c'est des gens, quelque part, quand même, qui se comprennent, qui parlent le même langage. Mais Laurent Méquès aurait reçu des propositions de Alpine, la FIA et la F1.
Ah, bah c'est sûr que ce profil, ça va intéresser. Hein.
Rejoindre Stefano Domenicali à Formula One. Mais pour l'instant, apparemment, Fred Vasseur met son veto.
Alors, on verra tout ça dans les prochaines semaines, parce qu'il faut réussir à faire le tri entre donc ce qui sort, ce qui fuite et ce qui est un petit peu déformé aussi par des confrères qui parfois s'embarrassent pas pour dire haut et fort.
Non, mais il y a quelque chose que Fred a bien Fred Vasseur a bien dit, qui résume un petit peu les choses, c'est qu'il y a des gens qui étaient tout simplement attachés à l'organisation de Mattia Binotto et à la personnalité de l'ancien patron de la Scuderia Ferrari, et qui se sont posés des questions: qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, et dans quelles conditions continue-t-on? Et là, ça crée des flottements, y compris à la technique, une incertitude importante.
Eh ben justement, on va en parler de l'aspect technique avec le départ de David Sanchez, donc un autre Français, qui est donc parti, lui, pour prendre la direction de chez McLaren.
Apparemment, il n'y a rien d'officiel
encore. Oui, ce n'est pas officiel.
Mais
apparemment, on lui prête des liens avec l'équipe de Ross Brawn.
De Zach Brawn.
Il était directeur de la conception.
Directeur, d'ailleurs, j'adore ce terme, parce que si vous comprenez, moi, je ne comprends pas. Tu as remarqué quand même, depuis quelques années, en Formule 1, dans les organigrammes, il n'y a plus de poste d'adjoint. Personne ne veut être adjoint. Alors, on nomme des directeurs. Non, c'est, ça en est, lui, est-ce qu'il ne comprend pas ce que c'est? Et chacun veut être directeur. C'est un petit peu l'armée mexicaine.
Ah, bon, mais il était, y a en pas fait, de formule.
Son boss, son poste s'appelle chef designer. C'est le numéro 2. C'est celui qui est sous les ordres du directeur technique et qui dessine ce que le directeur technique lui demande.
Bon, ça, et ça je s'appelle pense la est... stratégie des sommets volants dans le principe de Peter. Si tu veux, je t'expliquerai. C'est une méthode de management où, en gros, tu as des gens qui sont responsables et il n'y a personne en dessous. Bon, ce n'était pas le cas quand même de David Sanchez.
mais ça pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre? Comment est-ce qu'on va construire la voiture de 2024?
Et c'est en fait, c'est là que je voulais revenir. C'est que le départ de David Sanchez, est-ce qu'il ira chez McLaren? Ok, c'est une chose. Mais on voit bien qu'en ce moment, ce qui se passe chez Ferrari, c'est quand même une transformation aux profondeurs. Un Gino Rosato qui se fait débarquer ou qui s'en va, qui est poussé vers la sortie, on sait pas, c'est
il,
toujours...
Il n'influençait pas la performance, mais c'est une question de culture, d'environnement. Oui, voilà. Mais on voit ce qui se passe.
Ce que je veux dire, c'est que le départ d'un personnage aussi important que ça, ça ne se fait pas sans l'aval des plus hautes instances de la Scuderia. Je parle de John Elkann, oui. Clairement. Ça veut dire que, quelque part, Fred Vasseur, quand il dit « Je n'ai jamais eu autant de pouvoir dans une équipe que ça », je pense qu'il dit la vérité. Il faut vraiment avoir les coudées franches pour réussir à écarter des personnes comme ça. Pour autant, là, on est peut-être en train de maintenant de se dire « Mais en fait, la saison 2023, elle est déjà entamée, la voiture n'est pas performante, on est en train de se séparer de beaucoup de personnel. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier 2023? Est-ce que Fred Vasseur n'a pas fait une croix déjà sur 2023 pour préparer la suite? On se disait en préparant ce podcast, Fred Vasseur, il doit avoir finalement une vision de caméléon, c'est-à-dire un œil sur ce qui va se passer là, maintenant, dans 15 jours à Melbourne, et puis en même temps, de ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans pour la Scuderia Ferrari. Il faut réussir à jouer avec ces deux niveaux de vision. C'est très très compliqué parce que là, les gens qui partent, hein, David Sanchez, il va falloir le remplacer.
Et à voir si Enrico Cardile, le directeur technique châssis, ne va pas partir non plus. Parce qu'il est en fin de contrat, j'ai lu, l'an prochain, à confirmer. Mais c'est quelqu'un qui se poserait aussi cette question. Et qui était sa voiture est mise en cause aussi. Et si David Sanchez est parti, il y a quand même eu un événement lors des tests à Bahreïn, les trois jours de préparation à la saison. Il y a une discussion houleuse avec Charles Leclerc. Et juste après, il a présenté sa démission. Il a dit qu'il partait. Voilà. Donc, la voiture n'est pas bonne. On l'a vu encore lors de la dernière course. La question, c'est après, quelle cellule technique pour faire la voiture de l'an prochain? Ça, c'est... Voilà. Et on en revient toujours. C'est Mattia Binotto qui avait le mode d'emploi. Il est parti avec le mode d'emploi. Débrouillez-vous. Bon, et la voiture ne progresse pas. Je crois que là, il y a un petit peu le feu chez Ferrari.
Oui. En tout cas, c'est clair. Là, c'est une question de semaine maintenant hein, pour faire une cellule qui va travailler pour la voiture de la saison prochaine. Mais quelque part, est-ce que 2023 n'est pas sacrifié, ouais. Stéphane, chez Ferrari? On a quand même un petit peu le sentiment qu'on se dirige un tout petit peu vers ça. Hein.
Ils ont fait un sacrifice en 2021 parce qu'il y avait un règlement complètement différent. Donc, tu pouvais te permettre ça. Mais là, maintenant, en fait, tu es obligé d'apprendre. Et le concept n'est pas mauvais. Sur la voiture, tout le monde le reconnaît, c'est intéressant. Simplement, ils n'ont pas progressé l'année dernière. Est-ce que c'est par manque de vision technique de l'ancien directeur technique, Mattia Binotto, qui chapeautait les techniciens? Ou est-ce que ce n'est pas tout simplement un concept qui est arrivé en bout de développement? Déjà, ça peut être dangereux parce que ce qu'il faut, c'est être capable de travailler ensuite, de développer, d'apporter des pièces sur une voiture. Globalement, tu n'as jamais assez de temps de toute façon pour fabriquer une voiture. Et quand tu la sors au mois de février, tu dois déjà savoir ce que tu vas mettre dans les semaines, dans les mois suivants parce que c'est déjà ce que tu prévoyais pendant d'accord. l'hiver et que tu n'as pas pu faire faute de temps. Donc, tu sais ce qui va arriver. Et là, je ne sais même pas s'ils savent exactement où ils en sont chez Ferrari de ce point de vue-là.
Et pour souligner, hein, chez Red Bull, on annonce déjà finalement une filière de modifications pour les prochaines semaines, les prochains mois sur les Red Bull, alors qu'elles sont largement au-dessus du niveau. Et on sent qu'on n'a pas pour l'instant cet atout dans la manche du côté de la Scuderia Ferrari. Bref, il se passe beaucoup de choses en ce moment en coulisses et on a le sentiment qu'on est en train de couler des nouvelles fondations pendant que l'usine continue de tourner. Et c'est quand même assez complexe. On va surveiller tout ça. Il y aura encore plus de pression, j'ai l'impression, pour les pilotes et l'équipe Ferrari en arrivant à Melbourne pour le prochain Grand Prix en Australie qui se disputera le 2 avril.
Surtout que Charles Leclerc a réclamé une consigne déguisée quand même. Je vois ça, je crois que c'est au 33e tour. Je suis bloqué derrière Sainz. Je ne sais pas quoi faire. En voulant dire, si j'étais devant, je pourrais peut-être aller chercher une place supplémentaire. On a joué le statu quo, on l'a laissé faire. Après, lui, il a dit qu'il n'était pas capable de revenir réellement et d'entrer dans la zone des DRS, donc c'est quand même un aveu de faiblesse. Mais là, en fait, on ne lui a pas répondu favorablement, parce que Sainz était le mieux placé. On aurait pu essayer de sauver quelques points en disant que c'est notre meilleure chance d'être champion du monde. Et puis, Charles Leclerc, il a quand même demandé aussi à être reçu par le big boss John Elkann pour se tenir au courant de la situation, quels sont les plans, qu'est-ce qu'on va faire. Et ça aussi, quand même, quelque part, s'il va le voir tout seul, c'est qu'il se pose des questions. Il est en fin de contrat, fin 2024. Et là, je crois qu'on va rentrer aussi dans cette saison où chacun va essayer d'avoir un coup d'avance pour 2025.
Et il va falloir de nouveau séduire le monégasque.
Qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait.
Il va falloir de nouveau le séduire. Il va y avoir, c'est un chantier de plus, en fait, pour Fred Vasseur, conserver les services de Charles Leclerc. Il en manque pas de chantier, notre ami Fred Vasseur, au sein de cette Scuderia Ferrari. Je crois qu'on a tout dit sur un Grand Prix qui a quand même été assez riche en événements et en rebondissements.
En t'entendant, oui, j'ai pas mentionné Carlos Sainz quand même, qui est un numéro 2 un peu fragile, qui s'est fait tourner autour par Stroll dans la parabolique, hein, ça commence mal. Alors bon, la voiture est sous vireuse, voilà, tout simplement, oui, et donc il était sur des rails. Mais Sainz aux essais n'était pas à sa place non plus, et c'est peut-être sur les deux pilotes que se pose la question pour des raisons très très différentes.
Ouais, clairement. On a tout dit. On se retrouve la semaine prochaine.
Voilà.
Alors on aura un week-end de pause là, avant ensuite de prendre la direction de Melbourne.
Alors on a parlé de ce qui n'allait pas chez Ferrari, un petit mot quand même sur ce podium au 1000 miles de Sebring.
Ah oui.
De retour en WEC, ça nous a fait plaisir, ça a quand même, je dirais, revigoré les fans de la Scuderia.
Ferrari avait fait la pole.
Ça c'est extraordinaire.
À Sebring, il y a eu quelques petites erreurs de jeunesse, faut bien le reconnaître. Ça a été un superbe doublé de la part de Toyota, qui a montré que finalement l'expérience, ça avait encore du bon en endurance. Mais il y avait une Ferrari sur le podium des 1000 miles de Sebring.
Et ils ont fait une voiture qu'ils ont sortie en juillet. Comme quoi aussi, on sait toujours bien travailler chez Ferrari.
C'est plus de 20 000 km d'essai.
Voilà, 24 000, ouais,
ouais,
tout à fait. Donc on sait aussi faire les choses bien, lire un nouveau règlement. Bon voilà, faut être confiant. Ferrari reviendra au sommet, mais ça va prendre du temps, surtout vu la forme et l'avance de Red Bull.
Et ben voilà, on va se quitter là-dessus. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on va se quitter là-dessus. Un week-end à peu près tranquille la semaine prochaine. Et ensuite, il va falloir que tu te mettes à l'heure australienne.
et à l'heure d'été aussi.
On va avoir pas mal de changements. Il va falloir être attentif. On se retrouvera la semaine prochaine dans Les Fous du Volant. Passez une bonne semaine et d'ici là, on coupe le contact.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.